Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney sont les grandes voix comme tous les samedis matins. Les retraites, c'est pas fini ce mercredi. Les députés s'étaient donné rendez-vous pour débattre de la proposition Liotte à la Commission des affaires sociales. Sauf qu'à la fin de la journée, 38 voix pour, 34 contre, une abstention à l'issue du vote sur l'article 1er de cette proposition de loi sur la mesure d'âge, vidant ainsi le texte de sa mesure principale. C'est donc sans fin, Catherine Ney, en fait, ce débat.
Mais là, le LR qui avait quand même promis à Madame Borne de voter la loi. Bon, mais là, il essaie de se rattraper et les dirigeants ont changé les commissaires parce qu'il y en avait deux, une qui avait voté la motion de censure, donc, et puis l'autre qui était contre la loi, mais qui avait quand même dit qu'il voterait pas la loi Liotte, vous voyez. Donc, mais enfin, donc pour être sûr, eh bien, ils les ont changés par deux députés qui ont pu...
Mais il y a deux façons de considérer cette manœuvre. Il y a ceux qui sont... J'en ai entendu un certain nombre qui vous disent « Mais vous savez, c'est une pratique qui a déjà été... » C'est vrai. En plus, c'est vrai, qui a déjà été utilisée. Bon, je trouve simplement qu'à un moment donné, trop, c'est trop. C'est-à-dire que depuis cette affaire, l'accumul... Il n'y a rien eu d'illégal. Ni au niveau parlementaire, ni dans l'usage de la Constitution, en tout cas pas selon
ni
le Conseil constitutionnel.
Ouais.
Il n'y a rien eu d'illégal, mais il y a, et c'est le sentiment qui prédomine chez beaucoup de gens, de démocrates, de gens qui ont le sens du vote républicain, c'est qu'on a accumulé à chaque fois les empêchements, et je ne reviens pas dessus, pour dire, de toute façon, on ne votera pas. Je finis là-dessus. Il demeurera dans les annales que cette loi, alors on peut dire que c'était la mère de toutes les lois ou que c'est une loi relativement secondaire, peu importe, il demeurera qu'elle n'aura pas été votée par l'Assemblée nationale selon les pratiques habituelles. Ouais. Et dans les démocraties qui nous entourent, puisqu'on on est très européen et notre président est super européen, etc., dans les démocraties qui nous entourent, on n'aurait jamais vu un truc comme ça.
Je suis désolé
mais c'est comme ça.
Michel,
ce qui me paraît quand même incroyable, la commission Liotte et la proposition Liotte est aussi incroyable, impensable. Ce sont des gens qui... Pour beaucoup, était pour une retraite il y a longtemps à 65. Enfin, je trouve
Charles
que
de Courson,
Charles de Courson. Bon, Charles de Courson qui dirige,
qui va redéposer un amendement pour rétablir l'article 1er.
Si vous appelez pas ça une manœuvre, alors moi je veux bien qu'il y ait une manœuvre démocratique avec l'article 40 ou pas l'article 40. Mais alors si vous appelez pas ça une manœuvre, je ne sais pas ce que c'est que la commission.
Toutes ces manœuvres ne grandissent pas le Parlement, la démocratie française ne sort pas. Vous pouvez pas me dire qu'elle sort grandie de cet épisode.
Je vais te rappeler le mot de quelqu'un que tu as bien connu, Gérard. C'est Michel Rocard qui disait « Avec les retraites en France, on a de quoi faire sauter 40 gouvernements. » C'est-à-dire que depuis que François Mitterrand a passé l'âge de la retraite, c'est un tabou auquel il ne faut pas toucher.
Oui, mais finalement, au bout du compte... On va voir ce qui se passe le 6 juin et si vraiment la
mobilisation... Si la France descend dans la rue.
Au bout du compte, on a quand même l'impression qu'après des mois de remous, ça a fini par passer.
Charles Villeneuve.
Comme disait Nicolas Sarkozy, on a quand même l'impression tout le monde a protesté, etc.
Oui.
Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas dégradé.
Charles.
C'est sûrement pour ça. Mais la Constitution donne les moyens juridiques à la présidente de l'Assemblée nationale et au bureau de l'Assemblée d'éviter l'adoption de la proposition de Charles de Courson, de la loi Liotte, qui voulait l'abrogation de la loi sur les retraites, sérieusement. Mais là où Gérard a raison, c'est que l'image autour des débats abrogation, pas abrogation, ce qu'a précisé tout à l'heure Catherine Ney en disant les deux députés des Républicains dont l'une avait voté
la motion de censure.
La motion de censure et l'autre ne savait plus très bien d'ailleurs ce qu'elle a fait.
Il était contre, mais voilà.
C'est vrai que c'est une séquence assez longue, hein, depuis le temps qu'elle dure, qui renforce quand même l'idée que cette loi sur les retraites n'a pas été adoptée avec une légitimité parfaite, claire et transparente de la démocratie, de ce qu'on appelle la démocratie réelle.
Mais
c'est vrai que ça donne une idée quand même pas très nette.
Et qu'il y aura des conséquences politiques à un moment ou à un
autre. Conséquences sur les retraites, en tout cas.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au Conseil constitutionnel qui a dit que ça l'était, il n'y a pas eu un vrai débat. Mais il y avait 8, enfin, c'est le point qui sort cette histoire, qui est formidable, parce que pour une fois, les conseillers ont parlé. Eh bien, c'était Fabius qui voulait absolument, qui était contre, et il y avait 8, au contraire, 8 qui disaient, mais non, c'est tout à fait constitutionnel.
Oui,
c'est... Alors, d'ailleurs, dans le gouvernement, on se disait, que va nous préparer Fabius ?
Oui, parce qu'il y a une certaine jalousie. Entre
parce qu'entre Fabius et Macron, et je veux dire, là, les membres du Conseil constitutionnel ont résisté.
Ils ont fait du droit.
Ont fait du droit et ont essayé d'éteindre...
Et pas fait de la politique.
Éteindre cette passion...
Non, on imagine
triste.
Quand même
cette passion triste.
On imagine la deux anciens premiers ministres.
Ah bah oui, tout à l'heure, Michel remarquait que sur l'agence de notation américaine, que tout le monde attendait, il y avait une sorte de fébrilité. Or, depuis jeudi soir, on savait qu'elle n'allait pas dégrader quasiment parce que les marchés étaient tout à fait clairs. Il n'y avait aucune fébrilité, on le savait. C'était surtout une fébrilité médiatique en permanence en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. En réalité, ils ne bougeaient pas. Et d'ailleurs, on a assez critiqué Macron en disant s'il fait cette loi et s'il veut aller jusqu'au bout, c'est par rapport au marché financier.
On l'a dit ici, bien sûr.
Bon. Mais d'ailleurs, il l'avait dit lui-même à la sortie de l'été. Il avait dit financièrement, le pays ne peut pas se le permettre. Et on avait critiqué Emmanuel Macron pour ce mot-là en disant « c'est le banquier qui parle et non pas le président de la République ». Mais en réalité, il avait ça dans le giron.
C'est le président de la République qui avait raison et qui a raison.
Résultat, il monte dans les sondages.
Voilà.
Mais en attendant, sur ce que disait Gérard, sur ce qu'on appelle communément la démocratie représentative, elle en prend un coup avec ce genre de pugilat en commission des affaires sociales, parce que les Français qui ont élu leurs députés en juin de l'année dernière se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?»
Oui, mais
excusez-moi, mais le pugilat, il vient toujours de la France insoumise.
Ce n'est pas seulement la faute du pouvoir et du gouvernement.
C'est pas un pugilat.
Ce n'est pas seulement la faute du pouvoir et du gouvernement. Qui, de toute façon, anime le pugilat permanent ? C'est quand même pas la majorité relative, ou même les Républicains. C'est
je parle des députés,
ni
même le Rassemblement national.
C'est quand même...
Bon, alors on procède par élimination, merci.
C'est la France insoumise, on le voit.
Je n'ai pas exonéré la France insoumise, son comportement a été inacceptable, inadmissible. Je constate simplement... En termes de démocratie et de fonctionnement, je pesais mes mots, en termes de fonctionnement démocratique, ce qui s'est passé n'est pas la bonne façon.
La Constitution existe, elle n'a pas été violée.
10h36, une pause et on revient avec les grandes voix tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve. Suite des grandes voix avec Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carreau. Et après donc cette commission qui se déroulait mercredi où une députée de la France Insoumise a dénoncé, je cite, les dérives mafieuses de la Macronie. Voilà l'examen qui arrive de cette proposition Liot le 8 juin, mais aussi cette nouvelle journée de mobilisation le mardi 6. Pourquoi faire ? Pour un dernier baroud d'honneur, Charles Villeneuve ?
Oui. Ouais. Moi, je le pense, en tout cas.
Oui, moi aussi.
Ils savent très bien, enfin, je ne crois pas que les syndicats y croient encore, sur le plan de la mobilisation générale telle qu'elle a été réussie au fur et à mesure et qui a d'ailleurs troublé, je dirais, au minimum les esprits pendant assez longtemps. Et, il y a quelques secondes, Catherine Ney me disait, on sent qu'il y a une sorte d'apaisement général et c'est vrai, moi, je le ressens de la même manière. Là, on est vraiment dans la phase du baroud d'honneur. Les syndicats vont passer à autre chose. Ils ont un agenda social dans leur plan. Et c'est vrai qu'il est assez important, avec des étapes tout aussi importantes. Cela étant, ils ont réussi deux choses, il faut le dire. Premièrement, un nombre d'adhérents supplémentaires, d'adhérents qui les avaient un peu fuis ces dernières années. Or, ils ont reconstitué finalement leur peloton d'adhérents, manifestement. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, ils ont certes perdu la bataille finale, puisque la loi sur les retraites, elle est adoptée, elle sera de toute façon appliquée. Mais ils ont acquis une place centrale comme interlocuteur dans le débat public.
Et à l'intérieur de cette place centrale, il y a un changement très important qui va se produire, dont on va voir les effets commencer maintenant. Ouais. Il y avait un chef de file non écrit, si j'ose dire, qui était Laurent Berger, l'homme de la CFDT, etc.,
qui va changer,
qui va maintenant disparaître. Enfin, il fera peut-être autre chose, il fera sûrement autre chose, mais pas le chef syndical qu'il était. Et on a le surgissement de Madame Binet, qui est très politique, CGT. très politique, cégétiste dans le...
Beaucoup plus radical que son prédécesseur.
Cégétiste radical, donc. Et on va voir là s'il y a une inversion. À partir du moment où il y a une recomposition syndicale un petit peu, on va voir s'il y a une inversion du rapport de force. Je vous rappelle que la CFDT était devenue le premier syndicat et que là, on a une possibilité que ça rebascule.
Mais en plus, nous avons beaucoup dit qu'il y avait une union syndicale. Et ça, c'est vrai que c'était très réussi. Mais on sent à certains petits détails qu'elle se fissure. On sent que, par exemple, la CFDT va participer à d'autres rencontres avec le gouvernement, tandis que la CGT campe un peu sur ses positions. On sent quand même que cette unité syndicale qui avait été forte tout au long de la campagne des retraites est en train de changer. Et d'ailleurs, même sur la CGT, je crois qu'on peut vérifier que la CGT, localement, signe beaucoup d'accords avec le patronat. Et beaucoup plus peut-être que la CFDT.
Vrai, ça a toujours été
et
vrai.
Et plus que la CFDT. Oui, oui. Donc, quand il y a des positions de principe, et puis il y a ce qu'ils font à la base.
Il y a les augmentations de salaire, effectivement. Quand on est en inflation telle qu'on l'est, on crache pas
les coulisses,
sur les augmentations.
Hein, et puis il y a le devant des caméras. Laurent Berger qui avait dit, il y a quelques semaines déjà, c'est certain qu'on ne va pas faire des manifestations à répétition.
Bon, voilà, ça donne quand même... Et il faut savoir terminer une grève, comme avait dit Maurice Thorez en 1940.
C'est coupé honteusement,
non,
pardon.
Non, il faut savoir partir aussi, voilà.
Maurice Thorez, c'est bien.
Oui, non, j'ai toujours entendu des ministres du Travail, des premiers ministres dire ce qui est insupportable avec les syndicats en France, c'est quand on les reçoit en tête-à-tête, d'ailleurs ils viennent rarement en tête-à-tête, ils sont toujours accompagnés de quelqu'un, on arrive à avoir des conversations, même sur le fond assez raisonnables, en disant ce qu'il faut faire, et puis on croit qu'on a un accord, et ils sortent sur le perron, ils disent tout à fait autre chose, quelque chose de radical, parce qu'il faut parler uniquement à leur mandant et c'est tout, voilà. Donc c'est ça ce qui est terrible en France et ce qui est la différence avec en Allemagne. Les syndicats, eh bien, il y a une parole à l'intérieur, il y a une parole à l'extérieur et tout le monde est d'accord. Mais la différence aussi en Allemagne, c'est qu'il y a très peu, il y a deux grands syndicats, tandis que chez nous, l'équation, c'est maximum de syndicats pour minimum de syndiqués.
Et puis, voilà. Et puis, il n'y a jamais eu d'alliance, même à l'intérieur de la social-démocratie allemande. Alors, il y a une alliance entre les syndicats et le gouvernement. En France, ça n'existe pas. C'est une tradition complètement différente. Donc, les syndicats sont de toute façon toujours contre le gouvernement, d'une certaine façon.
10h44, une nouvelle pause dans les grandes voies. Et dans un instant, on parle du problème sans fin du harcèlement scolaire. À tout de suite.